Laudetur Jesus Christus.
Jour de vote ce mercredi pour des millions de Coréens du Sud. Un scrutin alors que l'inflation préoccupe de plus en plus d'habitants. Reportage sur un marché de Séoul dès le début de ce journal. La guerre menée par Israël dans la bande de Gaza et la catastrophe humanitaire en cours en question devant la Cour suprême israélienne aujourd'hui. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou doit répondre à la plus haute instance judiciaire du pays pour justifier sa politique humanitaire dans l'enclave palestinienne. À la une de ce journal également, le retour de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. Malgré son passé marqué par la corruption, il pourra finalement se présenter aux élections législatives prévues fin mai. Nous reviendrons aussi sur cette condamnation symbolique hier de la Suisse pour inaction climatique. Et puis dans notre dossier, gros plan ce matin sur l'OTAN, l'Alliance Atlantique qui fête cette année ses 75 ans. Certains la voyaient encore il y a quelques années en état de mort cérébrale, mais la guerre en Ukraine a rebattu les cartes. On en parle avec notre invité en fin de journal, le chercheur Olivier Kempf.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, les Coréens du Sud votent depuis ce matin à l'occasion des élections législatives. Un scrutin crucial pour le président Yoon Suk-yeol, au pouvoir depuis 2 ans et très impopulaire. Parmi les principales préoccupations des électeurs, l'inflation, en particulier celle des fruits et légumes. Certains produits ayant augmenté de 50 à 70% par rapport à l'année dernière. Une baisse du pouvoir d'achat qui pèse évidemment à l'heure d'un vote décisif. Notre correspondant à Séoul, Jean Labruyère, s'est rendu sur un marché de la ville.
Les allées du marché de fruits et légumes de Chongyangri à l'est de la capitale sont bondées en cette matinée de printemps, mais les cabas, eux, sont moins remplis que d'habitude.
J'achète moins en ce moment parce que c'est trop cher. Je suis venu pour les fruits, mais les prix sont élevés. 3 pommes, c'est 7 euros.
À cause de la hausse des prix, à la place d'acheter 2 pommes, je n'en prends qu'une.
Avec plus de 70% d'augmentation en un an, ce fruit est l'un des symboles de l'inflation. Chuanyong est vendeuse de pommes.
Les prix sont trop élevés pour les pommes et nos marges ne sont pas bonnes. Le gouvernement ne soutient pas tous les grossistes ou les petites entreprises comme les nôtres, car il y en a beaucoup. En revanche, les grands supermarchés, eux, reçoivent un soutien temporaire.
Le gouvernement a mobilisé plus de 100 millions d'euros pour baisser les prix sans succès, selon Sang Soo-jong.
Je sais que le gouvernement essaie de mettre en place un plan de lutte contre l'inflation, mais pour l'instant, au quotidien, je ne le sens pas du tout.
En visite dans un marché, le président estimait qu'une botte d'oignon vert à 60 centimes était un prix raisonnable alors qu'elle se vend généralement 4 fois plus cher. C'est devenu un symbole du mécontentement populaire, à tel point que la commission électorale a interdit les électeurs de se rendre aux urnes avec une botte d'oignon vert. Jean Labruyère, Séoul pour Radio Vatican.
Un haut responsable chinois attendu demain en Corée du Nord. Une délégation du Parti communiste menée par le numéro 3 du gouvernement sera accueillie à Pyongyang. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du 75e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Pékin, qui est le principal soutien économique et politique de la Corée du Nord, fin mars à l'ONU, la Chine s'était notamment abstenue lors d'un vote du Conseil de sécurité sur le renouvellement du comité de surveillance des sanctions qui visent Pyongyang. Une autre visite diplomatique, celle de Mgr Paul-Richard Gallagher, le chef de la diplomatie vaticane. Il est depuis hier au Vietnam. Il doit notamment rencontrer le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. D'autres rendez-vous institutionnels sont prévus lors de ce voyage, ainsi que la célébration de 2 messes à Hanoï et à Hue. Les relations entre le Saint-Siège et le Vietnam se sont réchauffées ces dernières années. Pour la première fois depuis 1975, un représentant pontifical est de nouveau en poste à Hanoï. Il a pris ses fonctions le 31 janvier dernier. La justice israélienne s'empare du volet humanitaire de la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou est appelé à s'expliquer aujourd'hui devant la Cour suprême suite à une pétition déposée le 18 mars par 5 ONG. Celle-ci conteste la légitimité des contraintes humanitaires imposées aux Palestiniens dans la bande de Gaza depuis le début de l'offensive de Tsahal. Jean-Charles Puzolu.
Après le dépôt de la pétition, la Cour suprême israélienne avait déjà tenu une audience et sommé le gouvernement de fournir des réponses au plus tard ce 10 avril à un certain nombre de questions concernant les mesures pour augmenter l'accès à l'aide humanitaire, les obstacles rencontrés par les ONG, les limites à l'acheminement de l'aide et les motifs de ces restrictions. Les organisations à l'origine de la pétition se sont plaintes à maintes reprises des différentes interdictions imposées par les autorités israéliennes sur certaines marchandises, notamment, ou sur l'utilisation de points de passage pour entrer dans la bande de Gaza. Elles ont aussi dénoncé des processus d'inspection longs et inefficaces des convois humanitaires et soupçonnent le gouvernement israélien de vouloir sciemment recourir à la punition collective. Et même lorsque le gouvernement annonce augmenter le nombre de convois humanitaires, les chiffres sont contestés. Selon Israël, 419 camions sont entrés à Gaza lundi. L'ONU en a comptabilisé 223 qui, de surcroît, selon un porte-parole du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU à Genève, sont à moitié pleins. Pendant ce temps, les bombardements continuent, augmentant le nombre de victimes et retardant la conclusion d'une éventuelle trêve. Israël s'isole. Joe Biden a estimé hier que son allié était en train de faire, je le cite, une erreur.
Jean-Charles Puzolu est signe de cet isolement diplomatique grandissant pour Israël. L'Australie annonce être favorable à la reconnaissance prochaine d'un État palestinien. Des pays comme l'Irlande ou encore l'Espagne ont également annoncé cette reconnaissance pour ces prochaines semaines. Les États-Unis mettent la pression sur la Chine alors que Pékin a renouvelé il y a quelques jours ses promesses de coopération stratégique avec Moscou. La Chine sera tenue pour responsable en cas de gains territoriaux russes en Ukraine, avertit Washington. La Russie qui a annoncé hier l'ouverture d'une enquête pour financement du terrorisme pour le compte de l'Ukraine. Moscou en est certain, les Occidentaux pourraient être impliqués dans l'attentat du 22 mars, revendiqué pourtant par l'organisation de l'État islamique. Un attentat qui avait fait 145 morts dans une salle de concert de la banlieue moscovite. En Afrique du Sud, une victoire pour l'ancien président Jacob Zuma. Malgré les nombreuses affaires de corruption qui pèsent sur lui, un tribunal a annoncé son exclusion des prochaines élections, annulé son exclusion des prochaines élections législatives du mois de mai. À 81 ans, Zuma va donc pouvoir se présenter sous les couleurs d'un petit parti récemment créé. À Johannesburg, la correspondance de Joséphine Klöckner.
C'est un nouveau revers pour l'ANC au pouvoir et une nouvelle victoire pour Jacob Zuma. L'ancien président, qui a décidé de faire campagne cette année pour un autre parti, le MK, pourra bien en être candidat aux élections générales du 29 mai. La commission électorale avait invalidé sa candidature fin mars, évoquant les conditions d'éligibilité prévues par la Constitution qui excluent les personnes condamnées à plus de 12 mois de prison. Or, Zuma avait été condamné en 2021 à 15 mois de prison pour outrage. Mais la justice a renversé mardi cette décision. L'avocat du parti MK avait en effet questionner la légitimité de la commission électorale à prendre cette décision et estimer que la peine finale en question n'avait été que de 3 mois suivant une remise de peine. Le retour de Zuma, qui malgré les accusations de corruption séduit toujours un large électorat zoulou, est une menace pour l'ANC qui pourrait perdre cette année sa majorité absolue pour la première fois depuis 30 ans. Johannesburg, Joséphine Klöckner pour Radio Vatican.
Le géant des hydrocarbures français Total Energy, accusé par une soixantaine d'ONG de poursuivre une politique climaticide. Dans une lettre ouverte à 24 banques et fonds d'investissement, ces ONG demandent que ceux-ci s'engagent publiquement à ne plus souscrire ou faciliter l'émission d'obligations. Les obligations sont un vrai Eldorado financier, plus discret que le financement de projets pour Total Energy, écrivent ces ONG. Le climat, il en est question en Suisse ces dernières heures. Hier, la Confédération a été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme pour inaction climatique. C'est une première. Un jugement jugé scandaleux et inacceptable pour l'UDC, le premier parti de Suisse. Berne est donc rendu responsable de ne pas avoir pris de mesures suffisantes pour atténuer les effets du changement climatique. La CEDH donne ainsi raison à l'Association des aînés pour la protection du climat qui avait déposé une requête. Une association pour qui c'est une victoire, même si le problème de fond n'est pas résolu. C'est ce que reconnaît le porte-parole francophone de Greenpeace Suisse, Matthias Schlegel, dont l'organisation a soutenu la démarche des aînés.
Pour l'instant, c'est une victoire qu'on savoure parce que c'est aussi le résultat d'un très long engagement. Ça fait 9 ans qu'on travaille sur ce cas. On a amené cette requête pour le climat devant l'administration fédérale en Suisse, devant différentes cours de justice en Suisse, et maintenant devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est un accomplissement et c'est vraiment un pas en avant qui a été réalisé. La présidente des aînés pour la protection du climat dit régulièrement aujourd'hui qu'on a fait l'histoire. Maintenant, effectivement, on doit s'assurer que ce jugement soit suivi de pas concrets et qu'il n'y ait pas une résistance inutile de la part de la Confédération et que voilà que la Confédération et que les autres pays du Conseil de l'Europe avancent maintenant et réduisent rapidement et drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre.
Mathias Schlegel, porte-parole de l'ONG Greenpeace en Suisse, il était interrogé par Xavier Sartre. Avant de passer à notre dossier, n'oubliez pas que l'audience générale présidée par le pape François tout à l'heure à Place Saint-Pierre, une audience à suivre commentée en français sur notre site Vatican News ou notre page Facebook à partir de 8h55. Si officiellement les 75 ans de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, ne seront célébrés qu'au mois de juillet prochain lors d'un sommet à Washington, c'est bien le 4 avril dernier qui a marqué la date de la signature du texte instituant cette alliance militaire. C'était en 1949 et le monde vivait déjà dans la guerre froide, le bloc de l'Ouest sous la protection des États-Unis et le bloc communiste à l'Est sous la coupe de l'Union soviétique. Depuis la chute du communisme et l'éclatement de l'URSS il y a une trentaine d'années, l'OTAN s'est élargie vers l'Est, au grand dam de la Russie héritière de l'Union soviétique. Aujourd'hui, l'Alliance Atlantique a été rejointe par deux nouveaux membres traditionnellement neutres, la Suède et la Finlande. La Moldavie et l'Ukraine, elles, aimeraient aussi l'intégrer. L'invasion de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine a changé la donne et redonné une certaine légitimité à l'OTAN qui semblait, il y a encore quelques années à peine, en état de mort cérébrale. Olivier Kempf, directeur du cabinet stratégique La Vigie, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, revient ce matin sur la raison d'être de l'Alliance Atlantique.
L'idée, c'est pas de conduire le conflit majeur, mais il s'agit plutôt de l'empêcher. C'est une forme de dissuasion pour empêcher effectivement tout agresseur, et particulièrement la Russie, de s'attaquer à un des pays membres. Et quand je parle de dissuasion, il va de soi que cette dissuasion est double. Elle est à la fois nucléaire, à cause de la garantie nucléaire donnée par les Américains, et puis elle est bien évidemment conventionnelle, parce que vous avez un dispositif nécessaire pour empêcher toute escalade. Et en ce sens-là, cela fonctionne pas mal.
Est-ce que vous pensez malgré tout qu'on n'est plus dans la phase vraiment de pure dissuasion, mais qu'on est entré cette fois dans une phase où l'OTAN pourrait, d'une manière ou d'une autre, intervenir, si ce n'est pas d'ailleurs déjà fait ?
Toute dissuasion suppose une certaine crédibilité. Et donc, on voit bien que depuis une dizaine d'années, l'Alliance a remonté finalement son niveau de disponibilité. Elle avait lancé quelques bataillons de réaction rapide mis en place à l'Est. Elle les a multipliés par deux. On voit qu'il y a des exercices et des entraînements de plus en plus conséquents. Il y a plus d'avions et plus de troupes qui sont effectivement aux frontières, de façon à montrer à la Russie, attention, il y a une ligne rouge à ne surtout pas franchir. Et donc, la crédibilité, c'est aussi un discours, c'est aussi un dialogue, une messagerie stratégique, une rhétorique stratégique. C'est pas seulement dire « je suis prêt », c'est aussi rouler des muscles pour montrer qu'on l'est réellement.
Alors l'OTAN jusqu'alors était dominée par les États-Unis. Est-ce qu'elle doit se repenser, devenir plus européo-centrée, dans la mesure où l'engagement de Washington apparaît comme, on va dire, moins infirmé et surtout sujet à changement ?
L'OTAN, enfin l'Alliance, repose sur un acte de foi et sur la garantie américaine. Donc tant que celle-ci est là, l'OTAN fonctionne. Qu'il faille remonter la présence européenne dans l'Alliance, les Américains le demandent, hein, et depuis de nombreuses années, hein, depuis George Bush et Obama, c'était déjà le cas, donc c'est pas juste une question de Trump. En revanche, si Trump revenait au pouvoir, c'est pas pour autant que l'Alliance disparaîtrait aussitôt, mais il est évident que les paramètres seraient changés et qu'il demanderait beaucoup plus d'investissements de la part des Européens, non seulement dans leur défense, mais aussi dans l'achat de matériel américain, ne nous y trompons pas. Aujourd'hui, les alliés sont engagés, mais depuis plus de 10 ans, à atteindre 2% de leur PIB en dépenses de défense, et à peine la moitié y est parvenue. Tout ça pour vous dire qu'il y a encore un peu de pain sur la planche.
Les Européens, est-ce qu'ils ont vraiment pris conscience, on va dire, de cette évolution de l'OTAN sur le moyen et long terme ?
L'Alliance, finalement, est quelque chose qui est voulu par les Européens, à part éventuellement les Français, parce que les Français, ils ont toujours leur autonomie stratégique, mais à part les Français, tous les Européens veulent l'Alliance Atlantique comme instrument de défense européenne, d'une part, et cet instrument de défense européenne passe à leurs yeux par le soutien américain. Donc la règle, elle est immuable, elle existe depuis 1949, et penser en sortir est assez illusoire à mon sens.
Voilà, l'OTAN à la une de notre dossier ce matin, interrogé par Xavier Sartre. Olivier Kempf, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique, était l'invité de Radio Vatican. Ainsi s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous, ce sera à 13h en direct de Rome. Excellente journée.